Bonjour, ici Marc, bienvenue au 35e épisode du bonheurpourtous.info, le podcast pour apprendre le bonheur. Ici, mon but est de partager avec vous les meilleures informations que j'ai trouvées pour reprendre contact avec notre vraie nature, le bonheur. Aujourd'hui, le troisième segment d'une de mes vidéos sur YouTube à propos de l'angoisse, de la dépression, de toutes les dépendances et pourquoi il est très utile de chercher la source de ces tourments dans ce qui s'est passé quand on était enfant. Dans l'épisode précédent, on en était resté à parler de comment, lorsqu'on a des aptitudes émotionnelles qu'on n'a pas encore eu l'occasion de développer suffisamment, à cause de ce qui s'est passé pendant notre enfance, eh bien, le fait de, par exemple, ne pas avoir eu l'entraînement nécessaire pour ressentir pleinement nos émotions sans que ça nous bouleverse, ça peut expliquer tout un tas de problèmes comme l'angoisse, la dépression ou les dépendances. Voici donc le troisième segment sur l'angoisse et les traumatismes émotionnels de l'enfance. Donc par exemple, au lieu d'écrire sur les paquets de cigarettes que c'est pas bon pour la santé, comprendre ce qui pousse les gens à fumer, voir que c'est juste un des signes de la détresse dans laquelle la majorité des gens vivent et que les vrais problèmes de société, ils sont à ce niveau-là, au niveau des aptitudes émotionnelles qui pour l'instant, pour presque tout le monde à mon avis, sont empêchés de se développer naturellement dans l'enfance. Je voudrais qu'on voit ça, parce que tant qu'on voit pas ça, je vois pas comment ça peut s'arranger. Pia Melody parle de ça à propos de la codépendance, que ça touche tellement de monde que c'est devenu la norme et que du coup, on ne s'aperçoit pas que c'est un gros problème de faire dépendre sa valeur de ce qu'on fait pour les autres, ce qui est très angoissant. Voilà ce qu'elle explique. La codépendance, ça commence quand les parents sont tellement débordés par leurs émotions qu'ils ne donnent pas assez d'attention à un enfant. Les enfants ont besoin de beaucoup d'attention pour pouvoir se développer émotionnellement. C'est recevoir de l'attention et avoir suffisamment d'interactions émotionnelles avec des adultes bienveillants qui permet aux enfants de développer leurs aptitudes émotionnelles. Donc, lorsque les enfants ne reçoivent pas assez d'attention et qu'ils s'aperçoivent qu'ils peuvent recevoir au moins un peu d'attention en aidant leurs parents, qui sont si débordés face à la vie de tous les jours, alors ces enfants se rabattent sur cette façon d'obtenir l'attention dont ils ont besoin. Ils se mettent à prendre en charge une partie des soucis des parents. C'est souvent le cas pour les enfants d'alcooliques ou de personnes avec une autre dépendance ou bien qui souffrent d'autres manifestations comme la dépression ou l'angoisse de n'avoir pas reçu eux-mêmes, quand ils étaient enfants, suffisamment d'apport émotionnel pour devenir émotionnellement adultes. Donc, les enfants dans ces familles, au lieu de profiter de leur enfance, de jouer et de prendre plaisir à faire des choses amusantes et intéressantes, qui leur procure du bonheur et qui renforce l'impression que la vie est merveilleuse, ces enfants passent leur temps à faire des corvées ménagères, ou bien à s'occuper de frères et de sœurs plus jeunes, ou bien ils deviennent le confident d'un ou des deux parents. Donc, au lieu que ça soit les parents qui soutiennent émotionnellement les enfants, ces enfants se retrouvent à soutenir émotionnellement leurs parents. Tout ça pour quelques miettes d'attention. Et le résultat, c'est que ces enfants ne reçoivent pas ce dont ils ont besoin pour se développer émotionnellement. Et ils se retrouvent convaincus que c'est de leur faute, que c'est parce qu'ils ne sont pas assez bien. Et que s'ils ne reçoivent pas d'attention, c'est parce qu'ils ne la méritent pas. Et inconsciemment, très tôt, ils deviennent persuadés qu'ils ne méritent l'attention de personne. Ces enfants se retrouvent à tirer leur sens d'avoir de la valeur du fait d'aider les autres. Ce qui veut dire qu'ils deviennent dépendants d'avoir quelqu'un dont s'occuper, quelqu'un qui a besoin de leur aide, quelqu'un qui, sans eux, ne pourrait pas se débrouiller. Et donc après, ils sont angoissés, parce que si jamais la personne dont ils s'occupent disparaît, alors eux perdent ceux dont ils dépendent, pour se voir comme quelqu'un qui mérite de vivre. Ils ont peur de perdre ceux dont ils dépendent pour se donner de la valeur. Et c'est tragique, parce que c'est pas de leur faute, ils sont juste nés là, ces enfants-là. Donc plus tard, lorsque ces enfants cherchent des partenaires amoureux, ils choisissent souvent, inconsciemment, des gens avec des problèmes, souvent les mêmes que les parents, des gens qui ont du mal à se débrouiller tout seuls, des gens que le codépendant veut sauver, parce que c'est le moyen d'avoir un semblant d'estime de soi. Le nom codépendant vient du fait que souvent ces gens se retrouvent avec des alcooliques, ou des dépendants d'autres drogues ou comportements. Et ça devient cette danse malsaine où la personne codépendante supporte tout un tas d'abus et de violences physiques ou émotionnelles de la part du partenaire, tout en aidant ce partenaire à rester suffisamment fonctionnel pour la vie en société. Mais pas beaucoup plus, parce que si la personne dépendante devient capable de gérer ses émotions, sans drogue et sans comportement dangereux, alors la personne codépendante n'a plus personne à aider, et c'est elle qui n'a plus ce dont elle dépend pour ne pas se faire dépasser par ses émotions. Donc cet équilibre instable, ça ajoute à l'angoisse des deux personnes. Parfois plus l'une, parfois plus l'autre. Et aucun des deux n'est conscient de ce qui se passe. Et comme dit Pierre Mélodie, c'est la société entière qui ne s'aperçoit pas de ce qui se passe. Et que tout ça, ça vient de n'avoir pas reçu le soutien nécessaire pour, encore une fois, développer des aptitudes émotionnelles fondamentales dans l'enfance, ou plus tard. Quand c'est expliqué comme ça, on comprend ce qui se passe et d'où ça vient, mais essayez, faites une recherche sur Internet ou dans une bibliothèque pour voir ce qu'on trouve sur la codépendance, et vous verrez, il va falloir chercher loin pour trouver que ça vient de ne pas avoir développé la capacité de contenir ses émotions et aussi de s'aimer soi-même. Alors, ensuite, pour trouver que l'angoisse, ça peut venir de ça, et que c'est pas une maladie mentale, hein, bonne chance. En tout cas, c'est ce genre de choses que je voudrais que plus de gens sachent pour que ça aille mieux dans le monde. Bon, ça, c'était pour la codépendance comme cause d'angoisse et comment ça touche vraiment beaucoup de monde. Et que c'est une façon dont le fait de n'avoir pas eu la possibilité de développer ces quelques aptitudes émotionnelles essentielles explique l'angoisse. Donc, pour les jeunes adultes qui n'ont pas encore eu le soutien nécessaire pour développer ces aptitudes, quand on se retrouve comme ça, poussé à prendre sa vie en main tout seul, et quand on n'est pas prêt, c'est tout naturel d'avoir peur et de sentir qu'il y a un gros problème. C'est un signe de sagesse d'avoir peur dans cette situation, parce que même si personne autour de nous ne le voit, le danger est bien réel. On s'expose à tous les problèmes dont on parlait il y a 5 minutes, les colères, la solitude, les drogues et les autres comportements à risque. Le point le plus important pour moi ici, c'est de montrer comment, tant qu'émotionnellement on est encore un enfant, on dépend pour se calmer de quelque chose d'extérieur à nous-mêmes. Et ça fait peur d'être dépendant comme ça. Ces gens ou ces choses dont on dépend, qu'est-ce qui se passe si on les perd ? On ne sait pas se débrouiller tout seul, alors qu'est-ce qu'on va faire sans eux? Qu'est-ce qui va nous arriver? Donc on est terrorisé. Surtout quand on est censé être adulte et que les gens nous regardent de travers, ils nous rejettent et on se retrouve isolé si on montre qu'on a besoin de soutien émotionnel comme un petit enfant. Donc ce que je veux montrer, c'est que tant qu'on risque de se retrouver submergé par nos émotions, tant qu'on dépend de quelqu'un ou de quelque chose qu'on risque de perdre, on se sent en danger. Et que c'est ça la deuxième source principale d'angoisse. Un exemple de ça dans ma vie. Mes parents m'ont bien aidé à apprendre à gérer la douleur physique. J'ai appris à être suffisamment prudent pour ne pas m'abîmer, sans avoir peur au point d'éviter de faire des choses où les risques, c'est juste des bleus ou des égratignures. Quand je tombais en patin à roulettes, je savais que la douleur s'arrêterait rapidement et qu'elle resterait supportable. Et j'étais pas inquiet. Mais pas pour la douleur émotionnelle, pas pour l'angoisse. Personne ne m'a aidé à apprendre à gérer mes émotions. J'ai grandi en pensant que pour les émotions, on peut pas se soulager tout seul. On a besoin de quelqu'un d'autre pour ça. Je pensais que pour la tristesse ou la solitude ou l'angoisse, la façon de s'y prendre pour se soulager, c'est de trouver quelqu'un qui vous aime et c'est leur amour qui vous calme. Donc, à partir de 6-7 ans, je cherchais une copine pour qu'on fasse équipe et qu'on se soulage l'un l'autre avec notre amour. Tout ça, c'était pas conscient. Je me retrouvais... Un gros pigeon. Tout ça, je me retrouvais complètement dépassé par l'angoisse, la solitude, et je voyais mes parents et il me semblait que c'est comme ça que eux faisaient. Ils avaient chacun l'autre. Donc, j'ai fait pareil. Et jusqu'à il y a 2-3 ans, j'avais pas réalisé à quel point ça me faisait rester vulnérable et donc angoissé. Maintenant, je dépends plus de personne pour rendre mes émotions supportables. Si j'ai des ruptures à l'avenir, oui, ça va faire mal, mais ce sera plus une douleur insoutenable comme avant. Ou en plus de perdre la personne à qui j'étais attaché, je perdais aussi la personne dont je dépendais pour revenir au calme. Ce qui faisait que je me retrouvais sans aucun moyen de ne pas me retrouver bouleversé par la douleur émotionnelle, pile quand j'en avais une tonne à cause de la rupture. Et dépassé par cette émotion, après je pouvais plus non plus gérer l'angoisse, même pas forcément très forte, à propos des autres problèmes comme le travail, etc. Je me retrouvais dépassé par mes émotions, tout autant que le bébé dans cette vidéo, l'expérience où la mère reste impassible. Parce que mon aptitude à ressentir pleinement mes émotions, même à 50 ans, était restée aussi non développée que celle de ce bébé. Parce que personne ne m'avait aidé à la développer, ni même à prendre conscience que c'était possible, que c'était quelque chose que je pouvais développer. Ça m'a pris plusieurs mois l'année dernière pour développer cette capacité. Et maintenant, je me promène plus en étant démuni et dépendant comme un bébé. Ce qui explique que j'ai plus l'angoisse que j'avais jusque-là. Voilà, donc d'après les meilleures informations que j'ai trouvées, c'est ça les deux causes principales de l'angoisse. Grandir entouré de dangers dont on se protège en prenant l'habitude d'être en permanence à l'affût du moindre signe d'une attaque et, deuxièmement, ne pas avoir appris à rester calme et on reste en danger de se retrouver submergé par nos émotions comme un bébé. J'espère que déjà c'est rassurant de voir qu'il y a de bonnes raisons pour expliquer que vous soyez angoissé si vous avez eu une enfance comme ça et que l'angoisse c'est pas ce qu'on voit partout, c'est pas un dysfonctionnement du cerveau, c'est pas une soi-disant maladie mentale. Et il n'y a rien qui cloche chez vous. J'espère aussi que vous voyez à quel point cette angoisse vous a servi, si elle vous a permis de vous protéger des dangers qui vous menaçaient, des abus et des négligences qu'on aurait pu vous faire subir si vous n'aviez pas été comme ça sur vos gardes. Alors oui, aujourd'hui cette angoisse est un fardeau, mais peut-être qu'enfant, elle vous a sauvé la vie et que sans cette habitude d'être aux aguets, pour pouvoir vous protéger à temps, vous ne seriez pas vivant aujourd'hui. Dans la deuxième partie, on verra ce que vous pouvez faire pour soulager l'angoisse, aussi bien à court terme que définitivement. On arrive à la fin de cet épisode du bonheurpourtous.info. Si vous voulez aider à faire connaître le podcast, ce qui aussi me fera plaisir, laissez un commentaire sur iTunes s'il vous plaît. Sur bonheurpourtous.info, il y a un lien qui vous amène au podcast dans iTunes et aussi aux vidéos sur YouTube. Si vous voulez en faire profiter vos amis, parlez du podcast et des vidéos autour de vous et sur les médias sociaux que vous fréquentez. Dans le prochain épisode, on commencera la deuxième partie à propos de l'angoisse, de la dépression, des dépendances, etc. Deuxième partie où on va parler des solutions, quoi faire pour trouver du soulagement. À bientôt.